Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui rapportent tout ce qu'ils ont fait et enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, les arrivants et les partants étaient si nombreux qu'on n'avait même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup les reconnurent. Alors à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de pitié envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les instruire longuement. Acclamons la parole de Dieu. Alors il se mit à les instruire longuement. Telle est la réaction de Jésus, alors qu'il est pris de pitié devant cette grande foule sans berger. Jésus est en quelque sorte obligé d'enseigner la foule à cause de son désir de l'entendre. Et aujourd'hui, vous avez le droit de chronométrer le sermon, mais ce sera seulement pour évaluer votre propre désir d'entendre la parole de Dieu. Dans la première lecture, Jérémie nous parle d'un peuple désemparé, d'un peuple dispersé par la faute de bergers qui ne le conduisent plus, de bergers choisis par Dieu, mais qui ne sont plus au service de Dieu. Et Dieu leur promet de s'occuper lui-même, de les guider, de les ramener à lui. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Eh bien, moi, je vais m'occuper de vous. Dieu promet un Messie, Dieu promet un roi dont le nom sera le Seigneur et notre justice, un roi qui guidera son peuple. Et ce roi, c'est bien ce Jésus dont nous parle l'Évangile. Ce Jésus qui fait l'étonnement de tout le peuple. Tout le monde s'empresse pour venir le toucher, pour venir lui demander un miracle, pour venir l'écouter. Mais Jésus, qui cherche un endroit de repos avec ses disciples qui reviennent de mission, eh bien, décide de partir. Dans cet évangile, il y a en quelque sorte deux foules différentes. La première foule, c'est celle qui se trouve là, qui en quelque sorte vagabonde à l'endroit où se trouve Jésus. Il y a les arrivants et les partants qui sont si nombreux qu'on ne peut même pas manger. Et on imagine Jésus dans cette sorte de brouhaha où il est très sollicité, mais peut-être n'est-il pas sollicité pour les bonnes raisons. Peut-être n'y a-t-il pas une foi réelle, une démarche de foi dans ces sollicitations auprès de Jésus. Et puis, il y a la deuxième foule. Jésus part en barque. S'il part en barque, c'est certainement que le chemin était plus direct pour aller sur l'autre rive. Et pourtant, on nous dit que ceux qui le suivent, ceux qui le reconnaissent, partent à pied et arrivent avant lui. C'est-à-dire qu'ils l'attendent sur place. Et il y a de quoi être très impressionné par ce désir de cette foule d'entendre la parole de Dieu. Et contrairement à la première foule, cette fois-ci, Jésus ne part pas plus loin pour chercher un lieu de ressourcement. Jésus, pris de pitié, s'arrête avec eux et les instruit longuement. Dans le ministère du prêtre, il y a certainement une manière de se laisser manger qui est destructrice, une manière de donner ce qu'il n'a pas à donner, qui est fatigante et qui n'est pas pour le rapprocher de Dieu. Et il y a une autre manière de se donner en répondant à une réelle démarche de foi, en donnant le Christ, en donnant la parole de Dieu. Et là, même s'il est fatigué, même si le ministère le fatigue encore, eh bien, le fait d'enseigner la parole de Dieu, le fait d'instruire longuement est bon aussi pour lui. Alors, à quelle foule, eh bien, pouvons-nous nous comparer? Est-ce que notre assemblée est comme la première foule qui vient là parce que Jésus est là, qui vient à la cathédrale parce que on a toujours fait comme ça, parce que peut-être la messe est plus courte ici? Ou est-ce que nous sommes comme cette deuxième foule qui vient avec un ardent désir d'entendre la parole de Dieu et qui donc entendra la parole de Dieu? Pourquoi cette foule est-elle si désireuse de rencontrer le Christ, ce Messie dont parle la première lecture, qui viendra rassembler son peuple? Eh bien, Saint Paul nous en donne la réponse. C'est lui, le Christ, qui est notre paix. Les uns comme les autres, réunis en un seul corps, il voulait les réconcilier avec Dieu par sa croix. En sa personne, il a tué la haine. Jésus est vraiment le fondement de notre unité, mais parce qu'il est d'abord notre salut. Le Christ est d'abord notre sauveur. Et certainement que cette foule qui accourt à lui, eh bien, a ce besoin d'être sauvée, ce besoin de recevoir de lui ce qu'il a de plus beau à lui donner. Mais pour cela, encore faut-il la foi. La foi pour reconnaître en un homme qui n'a que l'apparence d'un homme, reconnaître la divinité, reconnaître au moins un homme de Dieu. Notre foi à nous se fonde sur le même Jésus, mais que nous voyons crucifié. Et dans les églises, je suis toujours impressionné de voir en face de la chair ces énormes crucifix qui en général sont beaucoup plus gros que tous les autres dans l'église. Et sans doute était-ce pour rappeler aux prêtres que tout est là, tout est sur cette croix. La croix, ce n'est pas un symbole très confortable, et bien souvent nous voudrions annoncer une foi plus agréable, annoncer une foi qui dérange moins. Mais qu'est-ce que notre foi sans la mort et la résurrection de Jésus? Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme pour prendre sur lui nos péchés comme s'il les avait fait lui-même, pour en payer le tribut. C'est comme s'il nous faisait sortir de prison. Si nous étions tous en prison, eh bien nous serions tous séparés. Eh bien, la peine du péché, c'est exactement la même chose. Si la peine repose sur nous, sur nos épaules, eh bien nous ne pouvons pas faire l'unité. L'unité ne vient pas de nous. L'unité ne vient pas de la base, elle vient de la tête. Et donc dans ce corps qu'est l'Église, la paix vient du Christ parce qu'il est notre salut. Jésus, nous le côtoyons en particulier dans les sacrements. Sur l'autel, dans quelques minutes, eh bien, ce sera Jésus présent dans son corps glorieux tel qu'il est actuellement au sein de la Trinité, mais Jésus dans son acte d'offrande au Père, Jésus dans le même amour qu'il a fait monter sur la croix. Et donc nous serons là comme au pied de la croix. Eh bien, profitons-en pour renouveler notre foi. Demandez au Christ de renouveler notre foi, c'est ce que nous avons demandé dans la collecte, qu'il renouvelle la foi, l'espérance et la charité du peuple chrétien, pour réellement nous attacher à cette croix. C'est la devise des Chartreux. Le monde tourne, la croix demeure tandis que le monde tourne. Et quand on est jeune prêtre et qu'on a de grands désirs de changer le monde, eh bien, bien souvent on voudrait plutôt sortir dans la rue et puis faire de grandes choses. Et parfois nous nous retrouvons tout seuls dans une église à célébrer la messe. Eh bien, c'est là qu'il y a tout. Nous tenons entre nos mains le corps du Christ qui a sauvé les hommes. Et c'est réellement là qu'est notre espérance. Quelle est ma foi ? C'est une foi en Dieu fait homme, mort et ressuscité. Quel est mon regard aussi sur l'Église ? Est-ce seulement une structure ? Est-ce que cette messe se réduit au regard extérieur ? Est-ce que cette messe égale le niveau des chants ou le niveau du sermon ou le nombre de l'assistance? Non, tout cela n'est que des détails, même s'ils sont importants, mais la messe, c'est la parole de Dieu, proclamée et faite chair, présence réelle du Christ sur l'autel. Eh bien, préparons nos cœurs à accueillir le Christ qui vient. Demandons cette grâce d'être comme la deuxième foule qui parcourt un long chemin pour rattraper le Christ qui lui traverse dans la barque et pour le devancer, pour l'attendre quand il viendra et pour qu'à son tour il nous instruise longuement. Amen.